Derrière les barreaux.
Derrière les barreaux.
Derrière les barreaux. Derrière les barreaux.
Nos voix s'élèvent.
Nos voix s'élèvent.
Nos voix s'élèvent.
Bonjour à tous. Bonjour Sébastien.
Bonjour Elsa.
Bonjour Steve.
Bonjour.
Bonjour Youssouf.
Bonjour.
On se retrouve pour le second numéro de notre émission Derrière les barreaux, nos voix s'élèvent.
Enfin.
Comme d'habitude, cette émission abordera plusieurs thématiques.
Oui Elsa, on parlera cinéma avec une chronique en fin d'émission. Nous recevrons également Pascal Cassagno, docteur en histoire de l'art. Elle viendra nous parler de l'exposition Chaleur humaine qui commence ce mois-ci et se termine en janvier 2024.
Très bien.
Lors de la précédente émission, nous avions eu le droit à un rap freestyle de Rudy. Et ce mois-ci, c'est à ton tour, Steve.
Ouais, j'ai vu que les précédents auditeurs ont apprécié le freestyle de Rudy. Ah ouais, j'ai décidé de montrer moi aussi mon niveau pour le challenger un peu.
Très bien, on découvre ça tout à l'heure.
Mais d'abord, avant de recevoir notre premier invité, M. Reynaud, directeur de la maison d'arrêt de Sequedin, on va écouter la suite de la fiction radiophonique que nous avons commencée lors de l'émission précédente.
Et qui est d'ailleurs toujours disponible sur radio, sur rpl.radio,
en
podcast.
Hâte de l'écouter.
Hâte de l'écouter.
Oui, et on en parle juste après avec M. Reynaud.
Nous retrouvons notre ami l'ours presque brun qui, après sa séance de bronzette, décida de prendre une douche sur la corniche. Il y croisa un mouton avec un drôle d'accessoire accroché à sa patte. Curieux, il l'aborda pour lui demander ce que c'était.
« Oh, ben c'est un bracelet électronique !»
répondit le mouton.
« Je sors tout juste de prison !»
Intrigué, l'ours lui proposa d'aller boire un verre pour en discuter. Il voulait savoir si le reportage à la télé disait vrai. Ils s'installèrent en terrasse et le mouton se mit à raconter.
« J'ai écopé d'un an de prison pour trafic d'herbe en troupeau organisé. J'ai purgé ma peine à la maison d'arrêt de Quesedin.
Et comment étaient tes journées ?
Demanda l'ours, impatient d'entrer dans le vif du sujet.
Eh bien, je me levais à 7 heures pour sortir mes poubelles, la rouge pour l'alimentaire à composter et la verte pour le recyclable. Ensuite, je préparais mon petit déjeuner avant d'aller travailler.
Travailler ?
L'interrompit l'ours.
Mais dans quoi ?
Le mouton reprit.
Bah oui, il y avait plusieurs postes. Tous les détenus y avaient accès. On pouvait travailler en maintenance, carrosserie, menuiserie, jardinage, car on avait notre propre potager. Bref, on commençait à 8 heures pour terminer à 13 heures.
Et le reste de la journée, vous étiez enfermé ?
Demanda l'ours un peu excité.
Mais non !
S'exclama le mouton.
Quel serait l'intérêt ? On enchaînait nos activités après le déjeuner. On pouvait faire du judo, du hip-hop, de la peinture. Perso, j'adorais le tricot. Je dois tenir ça de ma mère. On occupait bien nos journées, c'est grâce à tout ça qu'on les voyait pas passer.
Et vous mangez à votre faim ?
L'interrogea l'ours, en quête de vis cachée.
Oh que oui ! Et il y en avait pour tous les goûts. Insectes, herbes du pré, viande saignante, pâtisserie et même du poisson fraîchement pêché.
Miam, moi j'adore le saumon.
Dit l'ours tout en léchant le sorbet qu'il venait de commander.
Et tu t'entendais bien avec les autres détenus ?
Enchaîna l'ours.
Oui, très bien, j'ai rapidement intégré le module impartial, un étage réservé à tous ceux qui adoptaient un bon comportement.
Ah bon ? Tous les animaux pouvaient y cohabiter ?
Le coupa l'ours stupéfait.
Même les loups ?
Oui, oui.
Répondit le mouton, un brin fier de lui.
Mais t'avais pas peur qu'il te mange ?
S'exclama l'ours en manquant de s'étouffer.
Mais non, Balou, on vivait dans le respect sans craindre les autres, ni pourquoi ils étaient là. On mangeait ensemble, on jouait, d'ailleurs les loups savent hyper bien cuisiner. Leurs gâteaux sont à tomber.
Incroyable.
Marmonna l'ours en sirotant le fond de son cocktail au miel. Puis, un peu pensif, il demanda.
Et les surveillants étaient gentils ? Et le directeur, tu lui as parlé ?
Oui, tout se passait dans le respect de notre dignité. L'ambiance était apaisée et le directeur, M. Dornet, on le voyait tous les mois pour échanger sur nos conditions, ce qui pouvait être amélioré et l'évolution de nos projets. Enfin, une vraie zoocratie, quoi.
Ouais, c'est pas comme à la télé, quoi.
Reprit l'ours, un peu frustré.
Non, et heureusement.
Retoqua le mouton.
Je suis sorti de là-bas nouveau, confiant en mes capacités. Tu sais, ça fait du bien de se sentir valorisé.
Bonjour Monsieur Reynaud, bienvenue dans notre émission. Vous êtes le directeur des détentions de la maison d'arrêt de Sequedin. Dans un premier temps, nous aimerions savoir qu'avez-vous pensé de cette fiction radiophonique et notamment nos illusions sur une détention idyllique.
Eh bien, j'ai trouvé que c'était une très belle fiction, du coup, avec beaucoup d'humour, chose que j'apprécie particulièrement. Et je pense que les conditions de détention, elles ne sont pas si idylliques. Il y a des choses qu'on retrouve aussi à Sequedin dans votre fiction.
Comme le mouton, serait-il possible d'avoir un régime alimentaire adapté à chacun et plus diversifié ?
Alors aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle un marché de gestion déléguée, où du coup, la prestation de restauration, elle est déléguée à Elior. C'est des marchés qui sont passés au niveau national et en fait, on a des menus qui sont travaillés au sein de la direction de l'administration pénitentiaire. Aujourd'hui, vous avez le régime végétarien. Vous avez aussi ce qu'on appelle le double choix. Donc, on vous permet de choisir vos menus. Ça s'est développé maintenant sur tous les bâtiments. Et du coup, c'est ça l'offre diversifiée qu'on peut proposer.
D'accord, merci.
Est-ce que vous avez écouté notre première émission ?
Tout à fait, je l'ai écouté, je l'ai apprécié, je l'ai validé, ainsi que la direction interrégionale.
Dans notre première émission, il y a Madame Labelle qui souhaitait mettre en place un comité de programmation des activités avec les personnes détenues. Est-ce envisageable ?
C'est tout à fait envisageable, c'est même prévu par le code pénitentiaire, en fait, les réunions d'information collective, et faire participer les personnes détenues à la vie en détention. Nous, vous savez, à ce que d'un, on est favorable à tout ce qui permet justement de créer du lien entre les personnes détenues, que ce soit des hommes et des femmes, puisque du coup, on travaille en mixité, comme là, sur votre émission de radio, et j'y suis tout à fait favorable, et on prendra le temps de le créer pour l'année à venir.
Et est-ce que vous avez remarqué dans cette fiction, on parle d'un comité des détenus par rapport aux conditions de détention. Et est-ce que vous pensez que c'est envisageable ici ?
Alors, les syndicats de détenus, si on peut appeler ça comme ça, c'est interdit, en fait. Par contre, justement, l'expression collective, elle doit être faite avec l'administration pénitentiaire. Donc, sur tous les projets structurants, on est censé venir vous consulter pour essayer de les mettre en place ensemble, chose qui s'est faite dernièrement avec les personnes détenues qui travaillent, sur d'autres activités qu'on voulait monter. Donc, ce serait plus sous cette forme-là, en fait, encadré par l'administration et avec un échange qui doit être justement nourri pour que vous puissiez aussi porter des projets qu'on puisse mettre en place au sein de l'établissement. Et sur les conditions de détention, bien entendu.
Okay. Par exemple, si un détenu aujourd'hui il a des questions, qu'est-ce qu'il doit faire ?
Alors, des questions, tout dépend sur quoi il a des questions.
Au niveau de la détention ?
De la cohabitation en cellule, de ce genre de choses, ou plus sur les règles de la détention ?
Plus sur les règles et n'importe quelle question, comment il fait pour vous les poser, ou vous, à la direction ?
D'accord. Bah, du coup, on a un système de requête, en fait. Vous écrivez, soit au chef de bâtiment, soit à la direction. Après, c'est enregistré, nous, et on vous répond, ou alors on vous convoque en audience. Après, vous y êtes tous confrontés aussi. Voilà, la surpopulation carcérale fait que on a 800 détenus au sein de l'établissement, et forcément, je ne peux pas recevoir 800 personnes dans la journée. Mais quand vous évoquez dans un courrier un besoin de parler, il faut donner les motifs, en fait. Parce que ça permet aussi de vous recevoir, et des fois de demander au chef de bâtiment de vous recevoir avec les éléments de réponse.
Concernant le système de promenade, un jour le matin, un jour l'après-midi, pourquoi avoir changé à la place de deux promenades par jour et ne pas avoir conservé les deux promenades ?
L'idée justement de la promenade unique qui a été mise en place, c'était de pouvoir permettre aux personnes détenues d'avoir des activités et d'organiser leur emploi du temps. Du coup, parce que vous savez que quand vous avez promenade le matin, on a calé aussi les jours de parloir pour que vous n'ayez pas parloir et promenade en même temps. Oui. Et l'idée, c'était justement de favoriser les activités pour les personnes détenues avec un emploi du temps acté. C'est pour ça que le dimanche, il n'y en a pas, qu'il y a toujours deux tours de promenade. Comme il n'y a pas d'activité, il n'y avait aucune raison de supprimer les deux tours de promenade.
D'accord, parce que le matin, concernant le scolaire, quand on va scolaire le matin, l'après-midi, on se retrouve sans promenade, c'est ça le...
C'est vrai que sur un gros établissement où on doit combiner un petit peu tous les mouvements, on ne pouvait pas prendre toutes les activités en compte. On a pris les parloirs, on a pris l'unité sanitaire aussi. Et tout ça, c'est calé avec la promenade unique. C'est vrai que le centre scolaire, on ne peut pas faire caler toutes les cours avec les promenades.
D'accord. Bilal, peux-tu nous expliquer quel est le problème que ça ?
Comme tu l'as dit, par exemple, mon souci, moi, avec les promenades uniques, c'est que comme je suis inscrit à l'école du lundi au vendredi le matin, ça veut dire, en fait, je peux sortir qu'un jour sur deux. Et quand on rate une promenade, on sort un jour sur quatre.
Oui. Alors ça, je l'entends tout à fait. Après, malheureusement, on ne peut pas... vous savez, c'est fait par côté, sur le centre pénitentiaire de Sequedin, justement, avec tous les problèmes de séparation qu'on doit mettre en place. Et on ne peut pas créer de nouveaux créneaux. Vous l'avez vu sur les deux bâtiments, on en a créé pour les travailleurs, justement, pour que les travailleurs puissent accéder à la promenade tous les jours. Et c'est vrai que le centre scolaire, il y a peut-être un travail à effectuer.
Mais sinon, c'est pas du tout envisageable de revenir au système des deux promenades.
Non, c'est vraiment pas possible. C'est un projet qui a été mis en place en 2020, donc quand même assez récemment, et qui du coup a permis à tous de pouvoir calibrer leur emploi du temps, mais aussi penser à l'unité sanitaire qui peut aussi programmer ses rendez-vous en fonction des promenades. L'idée, c'est que le détenu puisse avoir accès plus facilement aux services annexes de la détention.
Alors moi, j'ai une question. Le module Respecto, il est déjà présent chez les femmes. Pourquoi pas chez les hommes ? Alors, je vais un petit peu expliquer c'est quoi le module Respecto pour les auditeurs qui nous écoutent, qui ne connaissent pas forcément. C'est un module, en fait, avec des portes ouvertes où il y a des verrous de confort. Au niveau des horaires, on est ouvert de 9h30 à 11h30 et de 13h30 jusqu'à 17h15. Ça permet en fait aux détenus d'avoir de l'autonomie, de propositions d'activités, d'avoir des cuisines ouvertes, tout ça. Moi, personnellement, j'ai déjà fait une proposition d'activité dans laquelle vous avez été très favorable, qui est coiffure et bien-être, et qui est mis en place au module Respecto. Et la question, c'était du coup, est-ce que vous pensez mettre ça en place chez les hommes ?
C'est un projet qu'on a déjà évoqué en équipe de direction. On se heurte à plusieurs problèmes. La maison d'arrêt des femmes, vous avez un taux d'occupation qui est de moins de 100%. Donc forcément, mettre des gens seuls en cellule, c'est beaucoup plus simple. Sur les maisons d'arrêt des hommes, on est environ à 150-160% de taux d'occupation. Donc le module de respect, ça voudrait dire déjà doubler les gens en cellule. Ça peut toujours être étudié. Après, il faut choisir le bon étage. Vous avez vu, enfin, vous l'avez pas vu en étant en détention femme, mais les hommes présents ici, certainement, on a sectorisé par travail en détention, le service général, les ateliers. Et du coup, comment on organise le module de respect pour que ça corresponde avec l'organisation globale de la détention, tout en sachant qu'on a toujours ce problème de promenade. Parce que du coup, le module de respect, il faut y mettre des activités. Les salles d'activité chez les hommes sont au rez-de-chaussée. Nos rez-de-chaussée, il y a déjà un quartier arrivant. Il y a sur le bâtiment 1 des détenus un peu plus vulnérables. Et du coup, c'est vraiment toute cette organisation qu'il faut qu'on trouve. Alors, on n'y est pas du tout opposé. Sauf qu'aujourd'hui, avec le taux de surpopulation qu'on a, c'est compliqué à mettre en œuvre. Parce qu'en fait, si on le met en œuvre, on va dégrader des conditions de détention de certaines personnes détenues pour améliorer celles d'autres. Et du coup, l'idée, c'est quand même de ne pas dégrader les conditions de l'ensemble. Mais enfin, l'administration pénitentiaire est très favorable au module de respect. Il y en a maintenant dans presque tous les établissements, enfin dans une grande majorité. Et si vous avez un petit peu l'historique, c'est quelque chose qui s'est d'abord fait en Espagne, en fait, et qui a été décliné ensuite en France.
Alors, dans un avenir proche, alors, on verra ça.
Nous, on y a déjà réfléchi, mais je vous dis, comme tout projet, c'est très long. Ça a été le cas pour la promenade unique qu'on a évoqué. Ça a été plus d'une année de réflexion pour mes prédécesseurs. Donc, on n'y est pas fermé parce qu'effectivement, ça fonctionne très bien à la maison d'arrêt des femmes. Et je pense que toutes les personnes détenues qui y sont hébergées, y trouvent un intérêt. L'idée, c'est de rendre vraiment la personne détenue acteur de sa détention et de préparer sa réinsertion.
Je vous remercie.
Monsieur Reynaud, pourquoi avez-vous travaillé dans l'administration pénitentiaire ?
Alors moi, c'est par hasard que je suis rentré dans l'administration pénitentiaire. J'ai commencé comme surveillant. J'ai été premier surveillant, officier, aujourd'hui directeur. Ça fait 20 ans que je suis dans l'administration parce que j'ai trouvé une administration où on traitait avec de l'humain. Et moi, c'est ça qui me plaisait dans cette administration. C'est, voilà, on peut évoluer, certes, mais on prend en charge en fait, des personnes qui sont privées de liberté. Et l'idée, c'est de les accompagner vers la sortie. Donc il y a tous les services, mais aussi pour un directeur, pour un personnel de surveillance. Vous le voyez moins qu'avec vos CPIP, vos conseillers d'insertion et de probation. Mais du coup, c'est aussi le rôle du surveillant. C'est ce côté réinsertion moi, qui m'intéressait.
D'accord. Selon vos valeurs et celles que vous défendez, c'est ça ?
Ah, tout à fait. Ça rejoint mes valeurs. En fait, on est tous, on travaille tous là. Moi, je travaille, du coup, vous êtes hébergé, mais en fait, on vit tous dans la même société. Et demain, vous serez aussi des mes concitoyens. Et l'idée, c'est de vous préparer à la sortie le mieux possible.
D'accord, je vous remercie.
On arrive à la fin de l'émission. Nous avons été ravis que vous prêtiez au jeu. Et nous avons une dernière question. Quel est le style de musique que vous aimez et est-ce que vous appréciez le rap ?
J'apprécie fortement le rap, le hip-hop, le R&B. Je vais voir aussi des concerts. Pas parce qu'on est directeur d'un établissement pénitentiaire qu'on n'apprécie pas tout style de musique. Mais effectivement, j'ai eu l'occasion de voir beaucoup de concerts de rap.
Non, merci, c'est gentil.
Quel est votre dernier concert où vous y avez été ?
Booba au Stade de France.
Ok. C'était bien ?
C'était parfait. Ça m'intéresserait d'avoir justement votre avis à tous, enfin votre retour à tous. Aujourd'hui, on est sur une activité qui, je pense, est importante sous le prisme de l'éducation aux médias. Qu'est-ce que ça vous apporte, justement, de créer une émission de radio tout en étant incarcéré ? Je commence par vous, Bilal.
Ça apporte de la liberté. Enfin, c'est paradoxal, un petit peu de liberté en même temps en étant en détention. Mais c'est bien, ça fait sortir de la cellule encore plus. Franchement, c'est une bonne activité. Okay. Et le fait d'être en mixité aussi, c'est bien.
Pour vous, Sofiane ?
Moi, je veux dire pareil. Et après, moi, tout ce qui est atelier, tout ce qui est ça, sortir un peu de sa cellule. En plus, avec ça, on apprend un peu mieux à s'ouvrir, à parler. Tout ça, j'aime bien.
D'accord. Sofiane ?
Moi aussi, ça apporte la liberté d'esprit. Ouais, ça apporte la liberté d'esprit. Et ouais, ça permet d'apprendre des nouvelles choses.
D'accord. Et pour vous, Inès ?
Moi, ça m'a appris du coup à parler devant les gens, ce qui n'est pas forcément facile, de m'ouvrir et aussi de connaître l'envers du décor d'une radio.
Ok. Voilà. Et comment vous pensez que ça vous sera utile justement à votre libération ?
Ben déjà, avant la libération, ça nous est utile pour parler quand on arrive devant la juge. Ou... voilà, ça nous aide à parler, à être mieux éloquent. Et après, pour la libération, je ne sais pas.
D'accord.
Ouais, c'est pareil, ça nous aide à mieux s'expliquer, à mieux parler et tout ça. Mais comme il y a du billet pour dehors, je ne sais pas si ça va servir, mais c'est déjà bien.
Okay. Ben, comme ils ont dit, pour la juge, pour le prétoire... mais pour dehors aussi, ça peut nous servir pour les entretiens d'embauche, pour quand on passe devant un RH et tout, ça nous sert.
C'est un peu aussi la même chose. Ça nous permet aussi de, parce qu'il y a eu un travail aussi qui a été fait et une cohésion de groupe et tout ça, et ça nous permet aussi de préparer et de poser des questions et d'avoir de parler devant tout le monde.
Bon, en tout cas, merci à tous de m'avoir accueilli dans votre émission.
Merci, monsieur Reynaud, en tout cas, d'avoir répondu à nos questions. Et maintenant, on va vous présenter un rappeur qu'on a ici dans notre maison d'arrêt. Et il va vous faire un petit freestyle, on appelle ça.
Et ben, je reste avec vous pour l'écouter.
Merci. Yo, smoke. This one's fuego.
Même si le buzz est monté, tu peux toujours me croiser dans 2-7. On n'a pas changé, c'est toujours époulet. Je pars vos caviar et vos crevettes. Bébé, j'adore tes fossettes. Ça te donne un petit quelque chose. Joue les chimistes dans un labo du 2-7. Mes potos sont en train de monter la dose. Hein? Ok, mon petit coco, j'prends un verre de Malibu coco. Toujours posé dans le bando quand tu me vois. Kangar monococo. Une taille de gnôle, j'suis méché. Deux tailles de gnôle, j'devais méchant. 3h du mat, j'vais pêcher. 4 pour la charger sur les champs. En 7 minutes, j'fais le plat. J'mets la 6ème quand j'ai plus de faim. J'rentre dans le 7, j'suis un pétard. Moteur V8, j'mets le doigt, j'm'en pétard. C'est du 9 milli, pas du 4K. J'pense à l'écologie dans mon 4x4. Dans mon jean balma, au moins 4K. J'ai plus de garrot, donc j'pars sur les 4x4. J'vois les condés qui me pistent. Coup de volant, pneu qui glisse. J'rentre dans le mur, j'suis un pète-pète. Pas déjà bloqué, y'a les bleus qui me pète-pète. Ceux qui sont dans l'os, quartier arrivant. À peine arrivé, c'est déjà fatigant. Blindé, 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 blindé. Les salauds me croisent dans les rues de leur ville, je les entends tous créer Mayday. Je confonds ma peau avec un pare-balles. 10 pièces de B pour moi c'est normal. Depuis tout petit, je vais faire du sale. Je cache des marteaux dans mon cartable. J'entends des négros, des rebeux, des fauchés gays qui veulent jouer les blindés. De cette sarrasin, rien à prouver, monte au quartier, tu verras des cinglés. Grosse couille, gros pétard. Des têtes de fêtard. On voit des bécanes qui nous plaisent sur la route, on pète le nez, man. Hey. Même si le buzz est monté, tu peux toujours me croiser dans le 2-7. On n'a pas changé, c'est toujours époulé. J'ai pas votre caviar et vos crevettes. Bébé, j'adore tes fossettes. Ça te donne un petit quelque chose. Joue les chimistes dans un labo du 2-7. Mes négros sont en train de monter la dose. Banks.
Derrière les barreaux.
Derrière les barreaux.
Nos voix s'élèvent.
À présent, Estelle, Fatih et Rudy reçoivent Madame Pascale Cassagno, docteur en histoire de l'art, qui s'occupe de la collection des films du ministère de la Culture, et Camille Mort, stagiaire au sein du ministère de la Culture.
Bonjour Madame Cassagno, merci d'être avec nous. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste votre travail et nous le présenter ?
Merci à vous tous, bonjour. Oui, en effet, mon travail, comme tout conservateur finalement de collection, consiste à faire acquérir des œuvres. Alors mon domaine de spécialité, c'est plutôt le cinéma et la vidéo, les images en mouvement et l'art contemporain. Et donc cette activité consiste à prospecter, à découvrir des œuvres, à les faire acquérir par le ministère de la Culture, et puis surtout à les montrer, et surtout les valoriser dans beaucoup d'endroits, à la fois en France ou à l'étranger, et aussi dans beaucoup d'endroits en dehors même des seules institutions, musées, centres d'art, FRAC, dans d'autres lieux, et en particulier aussi dans les lieux de détention. Et en tout cas, c'est le choix que j'ai pris, surtout de vraiment faire ce travail un peu systématique. Voilà. En permettant d'introduire en détention des films. D'ailleurs, c'est ce qu'on fera à partir de septembre jusqu'en janvier. Et éventuellement, accompagner des artistes qui en sont l'auteur et pour générer des dialogues, des rencontres, peut-être des travaux d'écriture. plein de choses.
Et comment vous êtes arrivé à faire ce travail, en fait ?
Alors, de deux manières. D'abord, personnellement, j'aime bien travailler dans des lieux inhabituels ou en tout cas élargir toujours finalement des territoires. J'aime bien aussi être beaucoup à l'étranger, pas rester simplement qu'à Paris, etc. Et puis par ailleurs, il me semblait que justement les lieux de détention sont des lieux où il est important d'être et aussi où les œuvres, je crois, et les artistes qui ont créé ces œuvres ont tout à fait leur place, en ce sens que découvrir une œuvre, entrer en conversation avec une œuvre, c'est vraiment une rencontre. D'ailleurs, un artiste du XXe siècle, Marcel Duchamp, bon, aujourd'hui mort depuis très longtemps, mais disait que finalement, découvrir une œuvre, c'est vraiment aller à la rencontre, c'est une double rencontre, et qu'en plus, c'est le regardeur qui fait le tableau, ça je le cite. Donc c'est aussi le spectateur qui fait l'œuvre et qui la refait ou qui la lit, qui la découvre. Et donc ça me semble assez important. Et par ailleurs, au ministère de la Culture, c'est une mission également qui est assez encouragée. On n'est pas assez nombreux, me semble-t-il, à la faire, mais en tout cas, voilà, on est aussi encouragés à vraiment déployer des collections, faire connaître les biens publics, puisque les trésors publics, j'oserais dire, puisque les œuvres du ministère de la Culture sont publiques par définition. Elles appartiennent donc à la nation française. Donc voilà, pour toutes ces raisons, ça me semble assez important.
Merci pour votre réponse. Et justement, en parlant d'œuvres, quelle est pour vous la définition d'une œuvre contemporaine ?
Alors, bah, y a beaucoup de définitions, j'aurais du mal à en donner une, mais si tout de même, pour moi, en tout cas, je pouvais tenter d'en donner déjà une, ça serait de dire qu'une œuvre est contemporaine à partir du moment où vraiment elle analyse le présent, elle écrit le réel, et aussi elle se charge au fil des années, elle se recharge en présent. C'est pas la question de la création contemporaine n'est pas qu'une question de temporalité ou une œuvre récente, etc. Au fond, toute œuvre digne de ce nom contemporaine ou même dans le passé, c'est toute œuvre qui continue, bien après sa création, à nous permettre de penser et de regarder le réel et le présent.
Nous aimerions avoir votre avis sur les œuvres d'art recouvertes de peinture par les militantes écologiques, voilà.
Oui, c'est en effet, c'est un mouvement depuis quelques mois qui se produit dans pas mal de musées, et pas qu'en France d'ailleurs, hein, dans le monde entier, où il s'agit pour attirer l'attention des pouvoirs publics sur la façon dont finalement, tous les États du monde sont en train de saccager un peu, enfin de contribuer à ne pas arrêter en tout cas le saccage de la Terre et avec le réchauffement climatique, etc. Donc interviennent dans les musées en badigeonnant, alors évidemment de produits qui ne sont pas dangereux pour les œuvres quand même, parce qu'on n'a pas affaire à des personnes qui ont envie de détruire des œuvres, hein. C'est, faut quand même le dire tout à fait clairement, parce que souvent les médias déforment un peu les propos et les perspectives ou les intentions de ces personnes-là. Donc il s'agit évidemment de matériaux qui, une fois qu'on a nettoyé le tableau rapidement, ne vont absolument pas altérer la peinture, le pigment, etc. Donc c'est assez inoffensif pour l'œuvre. Néanmoins, c'est une opération de communication assez forte, par contre, pour les médias. Donc, bon, moi, je trouve que c'est en même temps un peu limité de faire ça, parce qu'au fond, il faudrait à ce moment-là aussi marquer sa place dans l'espace public, pas qu'à l'intérieur des musées, mais peut-être en extérieur, sur des statues. Enfin, je veux dire, tant qu'à faire, il faudrait mener peut-être un combat un peu général. Bon, voilà, je comprends parfaitement leur cause, hein, je la partage, même bien sûr. Après, cette action-là, elle me semble peut-être un peu limitée. Enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce qu'il faut dire, c'est qu'il n'y a pas de portée, il n'y a pas atteinte au tableau, et il n'y a vraiment pas le souci de la volonté de détruire les œuvres. Ce qui arrive parfois, on sait que parfois les œuvres d'art sont l'objet d'attaques,
de
vandalisme, etc. Ça, c'est tout à fait autre chose. Et malheureusement, dans les guerres aussi, il faut bien dire que la première cause de destruction des œuvres, ce sont les guerres. Mmh. Voilà. Donc là, on n'est pas du tout dans ce domaine-là du tout. Bon, après, moi, je renverrai plutôt à chacun, à chacune, homme ou femme, qui peut-être devrait... Enfin, je préfère ne pas répondre à leur place, mais voilà, on peut comprendre ce geste voilà, pour attirer l'attention des médias.
Et nous savons que vous avez déjà interviewé des personnes détenues. Pour quelles raisons, s'il vous plaît ?
Interviewé dans quelle...
Nous savons que vous avez déjà été dans certaines prisons.
Ah oui, oui. Non, alors, interviewer, c'est autre chose. Oui, oui, effectivement, c'est dans le cadre de mon travail, bien sûr, depuis des années. Comme je le disais, j'ai entrepris ce travail avec la collection des films dont j'ai la responsabilité. Oui, je fais un travail assez long, par exemple, à la centrale de Poissy, avant la Covid, pendant 4 ans et demi. Et c'était un vrai travail à la fois de découverte d'œuvres. Ensuite, nous avons conçu justement un atelier de création radiophonique avec France Culture, avec les mêmes œuvres choisies par les détenus, puisque c'était eux vraiment ceux qui avaient choisi, c'était une carte blanche qui leur a été faite. Nous avons fait une exposition et puis aussi un livre pour finir. Donc ils ont écrit, on a fait un gros travail de recherche, oui, c'est un vrai travail. J'interviens aussi régulièrement au Beaumet. Et puis là, maintenant, ça va être en Hauts-de-France, voilà, pendant quelques mois. Et puis peut-être plus tard, ailleurs.
Et du coup, quel est votre objectif en rendant visite aux détenus ? Avez-vous un message à faire passer ou...
Non, moi, j'ai aucun message à faire passer. Je pense plutôt que, étant donné que ça fait partie de mon travail, que de présenter des œuvres. Je fais aussi des expositions en dehors. Je travaille pas qu'en milieu pénitentiaire. Je fais par ailleurs des expositions dans des lieux divers et variés en France ou à l'étranger, dans des musées. Là, en ce moment, je fais tout un cycle au Centre Pompidou, donc ça n'est pas l'exclusivité de mon travail, mais je pense qu'il faut aussi que je fasse ce travail en détention. Et parce que ça m'intéresse beaucoup de savoir comment les œuvres dont je pense qu'elles sont importantes, enfin, sont parmi les meilleures auxquelles je crois, comment aussi elles sont regardées par d'autres publics que simplement le public du monde de l'art. Et ça, c'est ça pour moi qui est important, c'est aller vers d'autres regards et d'autres dialogues.
Bonjour Camille.
Bonjour.
Alors vous êtes stagiaire et assistante médiation et partenariat. Alors dans ce cadre, pouvez-vous nous expliquer un peu le métier d'assistante en médiation ?
Oui, alors déjà, je ne sais pas s'il faudrait que je présente ce que c'est la médiation avant de parler ce que je fais.
Ce serait intéressant.
La médiation, du coup, c'est quelque chose qui existe dans la culture, mais dans plein d'autres milieux. Il y a aussi la médiation juridique, je crois qu'on appelle ça comme ça. Donc c'est quand une personne fait le lien entre deux parties. Et donc du coup, nous, ce qu'on va faire en médiation culturelle, c'est faire le lien entre les œuvres, l'art et le public. Donc en fait, le médiateur, c'est la personne qui est entre les deux. Et donc du coup, nous, ce qu'on fait au ministère de la Culture, c'est pas de la médiation à proprement parler, parce qu'on n'accueille pas directement du public, mais on fait plutôt du soutien aux projets de médiation culturelle qui sont mis en place. On propose notre aide pour aider. Notre service, comme vous l'avez dit, s'appelle médiation et partenariat, parce qu'on travaille avec plein d'acteurs différents. Donc ça peut être des collectivités territoriales qui ont besoin d'experts en médiation culturelle pour un certain projet. Ça peut être plein d'acteurs culturels différents. Et donc du coup, moi, je participe à ça. Je suis en lien avec les différents partenaires. Et on fait plutôt de la gestion de projet. Donc on va les aider à monter leur projet en médiation culturelle. Voilà.
D'accord, merci. Et qu'est-ce qui vous a motivé à faire ce travail ?
Alors moi, du coup, je fais ce stage dans le cadre de mes études. Je suis en master à Sciences Po Grenoble en direction des projets culturels.
D'accord.
Donc on fait... Dans mes études, c'est un peu paradoxal, mais je ne fais pas de médiation. On en parle beaucoup parce que, évidemment, la médiation culturelle fait partie de la culture. On est obligé d'avoir de la médiation culturelle, c'est essentiel. Mais du coup, c'est pour ça que j'ai choisi de faire ce stage en médiation. C'est parce que ça me manquait dans mes études. Et je trouve que c'est vraiment essentiel d'avoir cette approche-là quand on travaille dans le milieu de la culture. Parce que c'est ce qui fait le lien avec les publics.
D'accord.
Et donc, du coup, je trouvais ça vraiment très pertinent quand on fait de la médiation, de pouvoir participer à ce genre de projet. Et c'est pour ça que j'ai accepté avec grand plaisir de me joindre ici. Et merci beaucoup, d'ailleurs.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Merci.
Merci à tous. Vous êtes toujours à l'écoute de RPL Radio avec l'émission Derrière les barreaux, nos voix s'élèvent.
On enchaîne avec la chronique culture.
Expression
directe.
Expression directe.
Souvenez-vous, pour le premier podcast, on avait choisi de vous parler du rap.
Pour celle-ci, Wafa, Sophia et Steve, ici présents, ont planché sur le thème du cinéma. Bonjour à vous trois.
Salut tout le monde. Comme l'a annoncé Elsa, Sébastien et Rudy, on va vous parler du cinéma. Le fameux 7e art autour duquel plusieurs cérémonies ont vu le jour. On connaît tous celle des Oscars, des Césars ou le dernier en date qui a saturé l'actualité. Je vous parle bien du Festival de Cannes. Steve, peux-tu nous expliquer quels sont les objectifs à atteindre en réalisant un film ?
Ben, pour moi, un film, ce n'est pas seulement des scènes qui s'enchaînent sans but. Des fois, le cinéma, c'est un moyen en fait, de faire passer des messages forts sur la société, la tolérance ou même les urgences climatiques. C'est un terrain neutre où tous les sujets qui fâchent en fait, peuvent être abordés, comme les conflits dans le monde, la religion ou même les orientations sexuelles. Après, c'est au réalisateur d'encaisser les critiques. Après, il y a des films qui sont faits pour faire tout simplement rire ou flipper. Entre nous, qui a regardé sereinement un clown depuis qu'il a vu ça. Tu connais ça ? Le clown bizarre.
Oui, ouais, ouais.
Georgie, voici Clipsou le clown. Voilà, maintenant on se connaît.
Honnêtement, j'arrive pas à dormir depuis. Enfin, je terminerai par l'industrie en fait, du blockbuster américain. Tout ce qui est Marvel, DC Comics. Dedans, il n'y a pas de message. Hein. C'est juste des voitures qui volent, des trucs qui explosent et c'est tout simple. Donc voilà, c'est fait pour encaisser le maximum de billets. Quoi.
Donc si on comprend bien, vu qu'il y a plusieurs objectifs, c'est qu'il y a plusieurs genres de films.
Exactement. On trouve de tout et pour tous les goûts. Comédie, horreur, thriller, biopic. Les biopics, c'est les films biographiques. D'ailleurs, en parlant de ça, il y a Soso qui me parlait d'un film qu'il a bien aimé et qui passe sur Canal en ce moment. C'était lequel déjà, Soso ?
Ouais, c'est un biopic de Simone Veil, c'est une ancienne ministre de la Santé. Et elle était engagée pour beaucoup de combats, et notamment pour améliorer les conditions des détenus. Et en fait, avant, les détenus ils étaient entassés par dizaines dans une même cellule. Il n'y avait qu'un bac au centre de la cellule pour faire nos besoins et tout. Et il était vidé une seule fois par semaine. Ça fait, il y avait des sales odeurs, des maladies et tout. Et Madame Veil, elle a aussi instauré le suivi psychologique et médical obligatoire dans toutes les prisons. Et voilà, elle voulait que la dignité des détenus elle soit respectée. Et on va passer à un extrait de son film qui m'a marqué.
C'est le chauffoir. On l'appelle le chauffoir car c'est le seul endroit chauffé de l'établissement. Le trou au centre, c'est pour les excréments.
Comment les excréments sont-ils évacués du bâtiment ?
Une charrette avec un cheval passe une fois par semaine pour évacuer les déchets, ou quoi ?
Maintenant, j'aimerais bien qu'on échange un peu sur les films coup de cœur de chacun. Qui commence ?
Moi, je vais commencer. Mon film coup de cœur à moi, c'est Casse Départ. Je ne sais pas si tu as déjà regardé, avec Thomas Indigel et Fabrice Eboué. En fait, pour moi, c'est une des meilleures comédies françaises. Après, la scène qui m'a marqué, c'est la scène où ils essaient de s'évader et puis ils sont directement rattrapés. Elle m'a fait rire, mais en même temps, c'est triste parce que c'est une réalité. À chaque fois qu'on regarde un film, on se dit toujours « Moi, j'aurais fait ça ». Sauf qu'à l'époque, de l'esclavage, beaucoup ont pensé comme nous, mais peu l'ont fait. Et même en essayant, beaucoup ont souffert. Et voilà, c'est une parodie, c'est marrant, mais en même temps, c'est triste. Pour moi, c'est une scène qui m'a marqué.
Et toi, Sofiane ?
Moi, mon film coup de cœur, c'est La Mentale. C'est l'histoire d'un mec qui vient de sortir de prison et voilà, il est rattrapé par son passé parce que il y a ses amis qui sont encore dans les magouilles, dans le business et tout. Et voilà, ils veulent que le remettre dans l'équipe. Mais lui, il a le cul entre deux chaises en vrai parce qu'il y a sa femme d'un côté qui est venue le voir au parloir. Elle lui a dit « Moi, je viens plus te voir au parloir si tu vas en prison. » Et de l'autre côté, il y a son équipe. Et voilà, et ça fait, c'est un sacré dilemme, et voilà, à la fin, il se fait allumer, voilà. Et moi, j'aime bien parce que c'est... Des fois, c'est compliqué dans la vie, tu sors de prison, voilà, t'as pas forcément le choix, et il faut faire le bon choix, sinon, voilà.
Et toi, Wafa ?
Moi, j'ai bien aimé le film Les Évadés. Bah, j'ai trouvé que c'était un film en fait, qui, dans lequel je me retrouve actuellement, puisqu'il traite du milieu carcéral. Je trouve que ce film est peut-être aussi intéressant pour les personnes à l'extérieur, puisque parfois les gens peuvent être parfois prisonniers de leur quotidien, d'une vie dans laquelle ils se sont laissés enfermer, soit par faiblesse, soit par habitude. Et parfois les gens peuvent s'éloigner de leurs rêves, de leur but.
C'est très très bien. On arrive à la fin de l'émission et on espère que vous avez apprécié. Mais avant de nous quitter, n'hésitez pas à rester quelques instants parce qu'on va vous balancer les coulisses de l'émission, le travail en amont et surtout les flops. Et j'espère que ça va faire bien marrer.
Merci à tous et à tous de nous avoir écoutés. On vous souhaite d'excellentes vacances et à une prochaine.
Et on se retrouve en septembre pour une nouvelle émission.
Merci à tous et encore bonnes vacances et merci de nous écouter.
RPL Radio.
Qui m'a abîmé mon stabilo?
Ils l'ont mangé.
Il était gros, c'est l'ours.
On peut rien vous confier en fait.
Ça parle mal, là ça parle mal.
1-2, 1-2.
Aïe.
Vous m'avez embrouillé en fait.
1-2, 1-2, 1-2, 1-2.
Mais. À 3, on y va.
Ah.
Je recommence.
Ouais. Qui m'a abîmé mon stabilo?
Je suis même pas payé.
C'est bien de regarder son interlocuteur dans les yeux.
J'ai regardé au niveau des épaules.
Incroyable.
Derrière les barreaux.
Derrière les barreaux.
Nos voix s'élèvent.